Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Le sujet de ce jour est « De mauvaises attitudes à l'égard du mariage ». Dans nos études précédentes, nous avons parlé de la nature du mariage et de la manière de se marier. Nous allons aborder à présent certaines attitudes communes concernant le mariage. Ce sont des façons de penser qui sont capables de vouer à l'échec un mariage dès son début. Elles font soit que le mariage ne dure pas, soit que les partenaires restent malheureux. D'abord, certains hommes semblent avoir l'idée qu'ils sont les propriétaires de leur femme. À leurs yeux, la femme ressemble fort à une possession. Selon leur conception, le mariage existe pour que l'homme puisse avoir une cuisinière, une domestique, une esclave pour travailler dans ses champs ou lui puiser de l'eau quand il veut se laver, un partenaire sexuel toujours disponible pour satisfaire sa passion et un moyen d'avoir des enfants. Mais l'ingrédient le plus important du mariage est celui qui leur manque, c'est l'amour. On peut embaucher une bonne, mais il faut aimer sa femme. La première responsabilité de l'homme envers sa femme, selon l'apôtre Paul, c'est de l'aimer. En Éphésiens 5, versets 25, 28 et 29, Paul écrit aux hommes « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Jésus nous a tellement aimés qu'il a accepté de mourir pour nous. Il est notre modèle. Nous devons aimer nos femmes au point d'accepter de mourir pour elles s'il le faut. Même si nous ne sommes pas appelés à mourir, l'amour pour nos femmes nous poussera à nous sacrifier afin de fournir ce dont elles ont besoin, afin de les rendre heureuses. La femme est une personne, elle n'est pas une chose à exploiter. Elle est aussi importante que l'homme. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 11 et 12 nous le rappelle. Dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Ce passage se réfère au fait que Dieu a créé la femme à partir d'une côte qu'il avait prise de l'homme, et que chaque homme est né d'une femme. L'un ne peut pas exister sans l'autre. L'homme n'est pas supérieur à la femme. La femme n'est pas supérieure à l'homme. Une deuxième attitude malheureuse à l'égard du mariage est qu'il existe tout simplement pour qu'on fasse des enfants. Il est vrai que de nos jours, beaucoup font des enfants sans jamais se marier. Cela est un péché. Mais d'autres, qui se marient quand même, le font surtout pour avoir des enfants. Dans le monde, il y a une honte attachée au fait d'atteindre un certain âge sans avoir fait au moins un enfant. Que ce soit pour laisser une trace de notre passage sur la terre, ou pour avoir des gens qui puissent s'occuper de nous quand nous serons vieux, ou pour satisfaire à l'envie de nos parents de voir leurs petits-enfants, ou tout simplement pour connaître la joie de tenir dans les bras un petit être précieux que nous verrons grandir chaque jour. On veut des enfants. Certes, il est normal que les enfants entrent dans le monde par une famille qui leur donne l'amour et une bonne éducation. Les enfants ont besoin de la présence d'un père et d'une mère. Ils ont besoin de la sécurité de savoir que ces deux parents seront toujours là pour eux. Mais le mariage a des buts et des bénédictions plus grands que la reproduction. Le mariage est pour l'homme et la femme. Les enfants sont une bénédiction que Dieu peut ajouter au foyer. Mais la relation d'amour entre l'homme et la femme est plus importante que la présence ou l'absence d'enfants. Le mariage existe avant leur naissance, et il continuera d'exister quand ils auront grandi et quitté la maison paternelle. Dieu a décrit le mariage ainsi. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Éphésiens 5, verset 31. L'amour est plus important que le fait d'avoir des enfants. La Bible nous parle de plusieurs couples qui sont restés sans enfants pendant de très longues années. Il y a par exemple Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, Elkana et Anne, et Zacharie et Élisabeth. La stérilité de ces femmes n'a pas du tout annulé leur mariage. On pourrait ajouter que leur stérilité n'a pas diminué non plus l'amour de leur mari pour elles. Si le seul désir d'avoir des enfants est la base de votre mariage et que les enfants ne viennent pas, que ferez-vous? Vous divorcez, violez ainsi la volonté de Dieu et perdre votre âme éternellement? Ou bien resterez-vous ensemble, mais frustré et misérable pour le reste de votre vie sur terre? Si par contre votre mariage est bâti sur le fondement de l'amour mutuel, même sans enfant, vous aurez la bénédiction d'un mariage heureux. Ne vous mariez pas à quelqu'un si vous ne serez pas capable d'être heureux avec cette personne, même sans enfant. Une troisième attitude que certains apportent au mariage est l'idée que la fidélité est uniquement pour la femme. Il y en a qui croient que le mari a le droit d'avoir des copines pour le plaisir, comme il a une femme pour préparer ses repas et lui donner des enfants. Il y a des hommes qui seraient très fâchés s'ils apprenaient que leur femme avait des copains, mais ils trouvent que c'est normal pour eux d'avoir des copines. Même certaines femmes acceptent cette idée. Si elles doivent être séparées de leur mari pour un temps, elles s'attendent à ce que leur mari sorte avec d'autres filles ou fréquente des prostituées. Après tout, se disent-elles, les hommes sont faits comme ça. En réalité, c'est Dieu qui nous a faits tous. Et il exige la fidélité de l'homme aussi bien que de la femme. Il dit en 1 Corinthiens 7, versets 2 et 3, « Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Que l'on soit homme ou femme, c'est avec son époux que ses désirs sexuels doivent être satisfaits. Faire autrement, c'est commettre l'impudicité. » En Marc 10, versets 11 et 12, Jésus dit, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » En d'autres termes, la même loi s'applique aux hommes comme aux femmes. Nous sommes tous appelés à maîtriser nos désirs. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 5. Une quatrième attitude qui fait échouer beaucoup de mariages est que le mariage existe pour qu'on obtienne de l'argent. C'est l'attitude de certaines femmes qui se marient pour avoir de l'argent pour leur commerce ou pour s'acheter ce qu'elles veulent. C'est aussi la pensée de certains parents qui poussent leurs filles à chercher un homme riche plutôt qu'un homme bon. Dans ce cas, la femme n'aime pas son mari. Son vrai désir n'est pas un bon mariage. Son plus grand souci, en fait, c'est de trouver de l'argent, des pagnes, du parfum, des chaussures. Elle veut avant tout un certain niveau de vie. Le mariage est pour elle une sorte de transaction commerciale. En cherchant un mari, son premier critère, celui qui pèse plus que tous les autres réunis, c'est la situation financière de l'homme. A-t-il une grande plantation ou un commerce important? Sa famille est-elle riche? Reçoit-il un bon salaire? Soyons honnêtes. La femme qui raisonne de cette manière n'est pas très différente d'une prostituée. Elle se vend elle-même pour le matériel. Une femme qui se donne à un homme, même en mariage, seulement pour avoir quelque chose, ne sera pas une bonne épouse. Le jour où le mari perd son travail ou rencontre de sérieuses difficultés financières et ne sera plus en mesure de satisfaire aux besoins de la femme, que fera-t-elle? Elle cherchera probablement un autre homme. Sinon, elle rendra ses difficultés encore plus amères par son attitude égoïste. Les maris devraient être bons envers leurs femmes. Ils devraient chercher à leur offrir des cadeaux, à se passer de certaines choses afin de pouvoir faire plaisir à leurs femmes. Mais les femmes ne doivent pas s'attendre à une sorte de salaire de la part de leur mari. Si elles considèrent le mariage comme un emploi, elles chercheront toujours un meilleur poste. C'est Dieu qui a institué le mariage. Si cette institution divine est une bénédiction et une source de bonheur pour nous, ce sera parce que nous nous conformons à ses instructions. Nous devons nous soumettre aux principes que Dieu a établis pour le mariage. Abandonnons les fausses idées telles que la femme est la propriété de l'homme. On se marie avant tout pour faire des enfants. La fidélité sexuelle est uniquement pour la femme. Et la femme se marie pour avoir une situation financière stable. Le mariage, au contraire, est l'union permanente d'un homme et d'une femme, bâtie sur l'amour, la fidélité et le respect mutuel. Mieux nous comprenons le mariage comme Dieu l'a voulu, plus nous jouirons du vrai bonheur dans nos foyers.
Conseille-moi, rien ne pourrait me faire marcher tout seul dans ce monde obscurci. À ta parole et grâce à la prière, j'avance en paix, sans peur et sans souci. Enseigne-moi dans ma pauvre ignorance, car je ne sais ce qu'il me faut savoir. Toi, Créateur de toute intelligence, mets dans mon âme un peu de toi.